Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute sur Canal M. Aujourd'hui, on se pose une question, la douleur, d'où elle vient? Pourquoi parfois, quand on a passé tous les tests inimaginables, eh bien, on a encore mal et on ne sait pas trop pourquoi? Pourquoi ça arrive même que la douleur, elle ne disparaît pas malgré tous les efforts, tous les médicaments pour la chasser? On va tenter de faire ça aujourd'hui, de démystifier la douleur et de corriger les croyances qui y sont associées avec Marie-Josée Rivard, elle qui est psychologue et auteure, également présidente de la Société québécoise de la douleur, directrice des services psychologiques. Et en première partie d'émission, encore des douleurs, mais cette fois-ci un petit peu plus spécifique, les douleurs au dos qui sont, comme vous le savez probablement déjà, un mal du siècle et que ça s'en va pas en diminuant du tout. La douleur au dos, c'est la troisième dépense la plus importante en santé. Est-ce qu'on peut éviter cette douleur-là dès le plus jeune âge? On peut peut-être associer douleur au dos et posture. Donc, je vous propose avec Jean-François Thibault, lui, qui est président, directeur général, fondateur de l'Institut Axelite, comment on peut améliorer par des petits trucs et astuces la posture chez notre enfant. Jean-François Thibault, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, très bien vous-même.
Excellent.
La posture, je mentionnais tout à l'heure, qui peut être la clé d'un dos en santé. On dit que 93% des individus qui ont souffert souffrent ou souffriront de problèmes, de douleurs au dos. Est-ce qu'il y a une solution pour prévenir chez nos jeunes ces douleurs-là?
Tout à fait, en fait, autant chez nos jeunes que chez nos plus âgés, la posture qui est principalement une mauvaise posture est reliée au style de vie. Et dans les années 2000, le gros coupable de ça, c'est toutes nos tablettes électroniques, mm-hmm. les ordinateurs, les iPods aussi, qui obligent en fait les individus à avoir toujours la tête penchée. Donc, ce qui cause à long terme n'importe quelle position à long terme qui est hors d'un bon alignement postural, mm-hmm. va causer un déséquilibre. Donc, les muscles vont se figer et vont se tendre dans cette posture-là. Donc, c'est ce qui va causer le plus le problème maintenant. En fait, il n'y a pas juste le style de vie qui va causer des problèmes de posture. Il y a aussi le mauvais développement de l'arche plantaire dans la jeune enfance. Il y a des problèmes moteurs au niveau des yeux. Il y a des mm-hmm. facteurs comme les cicatrices. Des problèmes d'occlusion dans la mâchoire, donc ou des douleurs à la mâchoire peuvent avoir une incidence sur la posture également.
Donc, plusieurs causes, mais entre autres choses, mal du siècle, notre sédentarité qui est beaucoup liée à notre grand attrait pour les écrans. Mais je reviens un petit peu en arrière, Jean-François Thibault, l'arche plantaire, mais qu'est-ce que c'est ça?
L'arche plantaire, en fait, c'est ce que nous sommes censés avoir à l'intérieur du pied. Donc, souvent, on voit maintenant les enfants avec les pieds plats, donc mm-hmm. L'arche plantaire qui est complètement avachie, qui a pas pu se développer adéquatement dans l'enfance. Et ça, c'est principalement relié aux chaussures, en fait.
Donc, nos enfants, on choisirait pas toujours les meilleures chaussures pour nos enfants?
Oui, puis il y a certaines compagnies, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que la plupart des compagnies ont commencé à mettre des arches plantaires donc, des supports d'arche sur les souliers pour des enfants qui ont 2, 3 et 4 ans. Le problème, c'est que l'arche plantaire n'est pas encore développée à 4 ans. Donc, c'est tout à fait normal que les enfants aient les pieds plus plats. Mm-hmm. Donc, si on leur met un soulier avec un support d'arche plantaire, on annule complètement le développement normal de l'arche plantaire.
Oh! Donc, solution, choisir d'autres types de chaussures.
Exactement, exactement. Donc, des chaussures à semelle plat, donc idéalement sans arche plantaire, avec une semelle semi-rigide. Donc, okay. Ça veut dire pas trop molle, pas trop dur. Donc, on doit être capable de plier la semelle avec nos mains.
Ça, ce sont de petits trucs bien accessibles. Il y a aussi autre chose qui est assez important en ce qui a trait à la posture chez l'enfant, et je ne le savais pas du tout, c'est l'importance de la marche à quatre pattes.
Tout à fait. Laisser son enfant marcher à quatre pattes le plus longtemps possible, c'est essentiel pour le développement moteur de l'enfant et aussi au niveau cognitif. Donc, les schèmes posturales se développent dès la jeune enfance et le fait de marcher à quatre pattes fait croiser les bras et les mains et ça aide le développement moteur et ça aide aussi la connexion entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau qui est responsable justement pour certains déficits d'attention, dyslexie chez les enfants. Oh. Donc, de réengrammer les chaînes croisées, ça peut être fait plus tard dans le développement de l'enfant et même chez les adultes, en fait.
Quelque chose de tout simple qui est même lié au jeu, au développement tout naturel de l'enfant et qui pourrait régler un tas de problèmes à long terme. Maintenant, est-ce que parfois, quand on observe notre enfant, s'il adopte tel ou tel type de posture, il faut absolument intervenir, Jean-François?
Écoutez, tout dépendamment de l'âge de l'enfant aussi, il faut savoir que les enfants à très, très bas âge sont composés principalement d'eau, donc vont des fois adopter des postures que nous, en tant qu'adultes, on regarde ça puis on se dit...
Comment ils y arrivent?
comment ils y arrivent? Ils doivent être en train de se faire mal, mais c'est pas le cas. Donc, plus l'enfant se développe, je vous dirais que c'est plus vers l'âge de 7-8 ans et en montant où ce que si les enfants développent une mauvaise posture, donc je reviens à ce qu'on disait tantôt au niveau des tablettes électroniques, donc plus en plus jeunes, les enfants commencent à utiliser ces tablettes-là et restent dans une même position pour une longue période de temps.
Ouais.
C'est ce qui cause le problème de posture. Donc, ce que je suggère, c'est idéalement de pas leur donner les tablettes pour une trop longue période de temps ou de les installer peut-être devant la télé où ils vont avoir une posture plus droite, où la tête va être droite, le tronc va être droit. Donc, c'est ce qui va aider les tablettes le moins possible.
Je rigole, Jean-François Thibault, parce que notre discussion fait réagir les gens en régie qui soudainement prennent conscience de leur posture sur leur chaise et s'assoient bien droit. Et ça me faisait penser ce que vous disiez à moi, mon enfance, devant la télévision. J'adorais cette position, donc à plat ventre, les jambes relevées et ma tête appuyée sur mes mains, mes coudes au sol. Et est-ce que ça, c'était une bonne posture?
Bien, en fait, c'est une posture, ça aussi, qui n'est pas nécessairement la meilleure parce que on se met en contraction dans le sens opposé. En fait, à la place d'avoir la tête par en avant, on monte le cou vers le haut. Donc, l'idéal, encore là, c'est de respecter les courbures au niveau de la colonne vertébrale. Donc, quand on est assis, exemple, en position indienne, ce sera un petit peu mieux, où on est capable de garder les courbures droites ou tout simplement appuyer sur le divan, où on est capable de garder le dos droit. Donc, on en est n'importe quelle position qui va créer une contrainte au niveau de la colonne va être problématique à long terme au niveau postural.
Et quel est le lien entre le positionnement de l'œil dans le rôle de la posture?
En fait, ça, c'est très intéressant parce que en tant que posturologue, c'est quelque chose que j'avais jamais été exposé avant d'étudier en posturologie. Puis le rôle de l'œil est très, très important puisque le rôle oculomoteur, donc la façon dont l'œil bouge dans l'orbite, va déterminer les compensations au niveau des épaules et au niveau des hanches. Donc, si les deux yeux ne sont pas sur les mêmes axes vertical et horizontal dans l'orbite, le corps va développer des rotations, donc il va faire tourner le corps. Donc, c'est une des principales causes des scolioses.
Ah oui, fascinant.
Donc, on a détecté aucune scoliose chez les aveugles. Donc, le problème au niveau des yeux, c'est vraiment au niveau des personnes qui sont capables de voir. Et c'est un dérèglement, donc des tensions dans les muscles des yeux qui causent le déséquilibre, qui peut être adressé très facilement avec de simples exercices pour les yeux, pour remettre les yeux dans le bon axe.
Mais pour tout ça, il faut être encadré par un spécialiste vers qui on se tourne si on pense que notre enfant n'a peut-être pas la meilleure posture ou qu'il se plaint de douleurs au dos, par exemple.
Je vous recommanderais en fait des professionnels qui sont capables de voir le corps dans sa globalité. Donc, autant si on a un problème de cou, d'adresser le pied, que si on a un problème de pied, d'adresser les yeux. Donc, les meilleurs spécialistes dans ces cas-là sont les posturologues et les ostéopathes. Donc, les ostéopathes ont une formation qui est très, très globale au niveau du corps en général, mais aussi au niveau de la posture. Où il y a certains spécialistes aussi, des physiothérapeutes en reprogrammation posturale, donc qui vont être en mesure d'adresser la posture pour diminuer les douleurs au dos. Parce que les douleurs au dos, ce n'est que le symptôme associé à, la plupart du temps, un débalancement postural. Pas toujours, mais la plupart du temps.
Et dernière chose, Jean-François, est-ce qu'il y a des recommandations à suivre, point de vue de la posture qu'on adopte pendant le sommeil?
Pendant le sommeil, ça, c'est une bonne question.
Mais pour les enfants encore, bien sûr, là, s'il y a des choses à vérifier.
Pendant le sommeil, il faut s'assurer d'avoir une oreiller qui est adéquate encore là pour respecter les courbures au niveau de la colonne vertébrale. Idéalement, ne pas se coucher sur le ventre parce qu'encore là, on cause des contraintes pour une longue période de temps. Donc, sur le côté serait l'idéal ou coucher sur le dos, mais la plupart des enfants vont être plus confortables couchés sur le côté.
Jean-François Thibault, je rappelle que vous êtes coach en santé globale, également président, directeur général et fondateur de l'Institut Axelite, d'ailleurs www.axelite.com. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup à vous. Au revoir. Une belle journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Au Canada, tout comme dans l'ensemble des pays industrialisés, on estime qu'environ 20 % de la population souffre de douleurs chroniques, celles-ci pouvant atteindre chez le quart de ces personnes une intensité telle qu'elle met un frein à la plupart des activités normales. Il s'agit d'un problème de santé publique d'une ampleur considérable car il affecte un plus grand nombre de personnes que le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et la maladie d'Alzheimer réunies. Je viens de vous citer une toute petite partie du livre « La douleur de la souffrance au mieux-être ». C'est écrit par Marie-Josée Rivard, elle qui est psychologue. Et je la reçois en ce moment même. Merci d'être là, Marie-Josée.
Merci beaucoup de l'invitation.
Quand on lit votre livre, on se rend compte assez rapidement que, et ça m'a vraiment bouleversée comme découverte, mais en même temps, peut-être rassurée également, la douleur, ça fait partie de la vie, et ce, dès la naissance. Le tout petit enfant va ressentir de la douleur, soit liée à des coliques, à des reflux gastriques. Donc, c'est vraiment lié à la condition humaine, mais ça reste quand même très difficile. C'est intangible, ça reste difficile à percer la douleur. Et ben, je pense que vous aussi, ça vous fascine pour avoir passé énormément de temps à l'étudier et à écrire un bouquin là-dessus également.
Oui, tout à fait. Et à y travailler pratiquement chaque journée aussi, à côtoyer des gens qui souffrent de problèmes ou d'autres de douleur. Et comme vous le dites, en effet, la douleur, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie. Et ce, dès nos premiers moments de vie, très souvent jusqu'à la fin de notre vie. Et pour une très bonne raison, parce que la douleur, ressentir la douleur, d'avoir la capacité de ressentir la douleur, c'est essentiel à notre survie. C'est un signal d'alarme, de protection de notre corps contre plusieurs événements, plusieurs situations, des blessures potentielles qui pourraient remettre en cause notre intégrité physique, donc en nous blessant ou en causant un autre problème. Alors, c'est donc nécessaire de ressentir la douleur. Vous savez, il y a quelques personnes, à peu près une centaine de cas à travers le monde, où les gens n'ont pas la capacité, il y a une défectuosité sur un gène qui fait en sorte qu'ils n'ont pas la capacité à ressentir la douleur. Et chez ces enfants-là, ben chaque blessure, chaque élément qui, nous, à cause de la douleur, nous permet de changer de direction, ben pour eux, ils vont foncer dans un mur, ça fera pas mal, et puis ils vont continuer de le faire. Donc, on a vraiment besoin de ce signal d'alarme-là pour nous protéger. Mais il y a un problème, par contre. c'est quand cette douleur-là, elle ne part plus.
Mm-hmm.
La douleur qui est nécessaire à notre survie, c'est une douleur aiguë à un moment précis dans le temps et qui part après un certain temps aussi. Une douleur chronique, c'est une douleur qui persiste au-delà soit d'un délai attendu d'une guérison suite à une blessure, à une chirurgie, ou parfois au-delà de 3 à 6 mois, là, c'est à peu près les critères qu'on va déterminer pour qualifier une douleur de chronique. Mais un des éléments, non seulement chronique, donc qui persiste dans le temps, mais un des éléments de cette douleur-là, c'est les impacts qu'elle a dans la vie de tous les jours chez les personnes qui en souffrent. Et vous disiez en introduction, à peu près 20% de la population souffre de douleur. Ce sont les chiffres les plus conservateurs. On parle d'une femme sur 4, on parle d'un homme sur 5, on parle d'un enfant sur 10. Ce sont des chiffres alarmants qui font peur et qui se voient à travers le monde, là, pas seulement qu'au Québec ou au Canada.
D'après les chiffres, les femmes seraient plus touchées par la douleur chronique.
En fait, oui, et ça peut s'expliquer d'abord d'une première façon où souvent les femmes vont exprimer davantage ce qu'elles vont ressentir que les hommes, quoique c'est de moins en moins le cas, mais ça, c'est un des biais qu'on peut avoir quand on prend la mesure. Les femmes ont certaines hormones en particulier qui vont fluctuer à différents moments de notre vie. Et ces hormones-là, on est en train de découvrir qu'elles ont peut-être un lien avec la tolérance à la douleur, avec les seuils de douleur. Il y a des composantes génétiques aussi qui peuvent expliquer. Alors oui, il y a une différence entre les genres, les hommes et les femmes, mais il y a une différence aussi chez la personne même, donc entre les individus, peu importe leur sexe, peu importe leur âge, parce que dans la courbe des chiffres, on voit que quand on atteint 65, 70, 75 ans, c'est pratiquement une personne sur deux qui souffre de douleurs et parfois même encore plus chez les gens qui sont en établissement de soins de santé. Mm-hmm. Les études nous disent que ça peut aller jusqu'à 80% des gens qui vivent avec la douleur à tous les jours ou au moins 3-4 fois par semaine depuis des semaines, des mois, voire même des années.
Marc-José, est-ce que c'est parce que plus on vieillit, plus on est sensible à la douleur ou plutôt parce qu'on est plus à risque de développer des maladies chroniques?
Les deux, en fait.
Okay.
Vous avez raison. Il semble que avec le vieillissement, le corps ne réponde pas de la même façon à ce que l'on perçoit, donc aux sensations. Et le corps est aussi plus fragile, donc parfois propice à développer des maladies ou avoir des chutes ou des blessures, d'où va s'en suivre la douleur. Donc, les deux font partie de ce que l'on connaît encore. On étudie beaucoup, beaucoup la douleur. Au Québec, entre autres, on est une force incroyable au niveau de la recherche, mais plus on en connaît, plus on se rend compte à quel point c'est un phénomène qui est complexe, qui est compliqué à étudier et qui est difficile à comprendre et à bien évaluer.
Mmh. Où j'ai pu évaluer souvent le grand désarroi de certaines personnes, c'est quand ils avaient mal, ils passaient une batterie de tests et les médecins ne trouvaient absolument rien, aucune cause à leur douleur. Et là, à ce moment-là, il y a une panique un petit peu qui s'installe, un grand désarroi, beaucoup de questionnements, savoir mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que j'invente ça? Vous en avez probablement rencontré des tas de gens dans votre pratique, Marc-José. On leur répond quoi à ces gens-là?
Oui, en fait, à tous les jours, il y a des gens qui se présentent et qui me disent « on a fait tous les tests et on voit rien, pourtant j'ai mal ». Mais en fait, deux choses. Il y a toujours une cause à une douleur que l'on ressent. Cette cause-là peut être identifiable par des examens, des résonances magnétiques, des scans, par des examens objectifs en médecine. Parfois, elle n'est pas visible, elle n'est pas objectivable, parce que la douleur en soi, c'est une expérience que l'on ressent. Donc, c'est très, très propre, personnel à chacun d'entre nous.
Mm-hmm.
Mais il y a toujours une cause. Parfois, la cause, elle est visible. D'autres fois, elle n'est pas visible. Parfois, c'est que nos instruments pour la mesurer ne sont pas encore assez puissants. Ou d'autres fois, parce qu'on n'arrive tout simplement pas à comprendre quelle est cette cause, bien qu'il y en ait une. Parfois, les gens vont vivre des stress majeurs dans leur vie. Le corps va absorber ce stress-là. Et si on a une vulnérabilité, si on avait un endroit dans le corps qui était plus vulnérable, justement, ben il peut y avoir une douleur qui s'exprime à cet effet-là. Ce qui est la minorité, en fait, des cas que l'on voit, très souvent, la douleur fait suite à une maladie, fait suite à une chirurgie, fait suite à un événement précis, traumatique. et troublant et la guérison ou l'adaptation ne se fait pas naturellement et la douleur s'installe et elle va persister.
Il y a plusieurs impacts à la douleur. On oublie peut-être parfois, quoique de moins en moins, les impacts psychologiques, donc les effets sur la santé mentale, et pourtant il y en a plusieurs.
Oui, et en fait, à peu près partout à travers le monde maintenant, on s'entend pour dire que la douleur est à la fois un phénomène qui est physique, sensoriel, donc une perception objective d'éléments que l'on analyse comme étant de la douleur, mais également une partie émotionnelle. Mm-hmm. Juste à penser de par l'aspect désagréable de la douleur. Personne ne veut être en douleur, personne ne veut avoir à souffrir. Alors, à tous les jours, on va essayer d'éviter de se mettre dans cette situation-là. Mais quand on y est, les impacts au niveau émotionnel sont très, très grands, pour ne nommer que l'anxiété, en fait, la peur et la déprime, le découragement, le sentiment d'impuissance, le sentiment de perte de contrôle, d'une part sur la douleur, puis d'autre part sur soi-même. Alors, les gens que l'on rencontre vont parler, vont exprimer cette détresse-là émotionnelle qui est souvent en réaction à la douleur, mais qui, de façon très vicieuse, va venir nourrir l'intensité de la douleur. Alors, on peut être déprimé à cause d'un problème de douleur et des conséquences de cette douleur-là dans notre vie. Et parce qu'on est déprimé ou parce qu'on aurait peur, par exemple, en retour, ces émotions-là vont venir intensifier la douleur et parfois même la rendre réfractaire au traitement qu'on peut faire pour soulager la douleur.
Ce qui pourrait expliquer que bien des gens qui vivent avec une douleur chronique pensent qu'ils font une dépression et ils ne se reconnaissent plus vraiment, ont du mal à vaquer à leurs activités quotidiennes, ont beaucoup envie de dormir, du mal à travailler et ils se disent « bon, je fais une dépression » et parfois c'est difficile de dire « ouais, mais est-ce que tu fais une dépression ou c'est juste que tu as tellement mal que tu n'arrives plus à te reconnaître ?»
Oui, en fait, la dépression peut être en lien avec la douleur. Elle peut arriver seule aussi sans qu'il y ait présence de douleur, mais c'est une des dynamiques qu'on voit le plus souvent. Après un certain temps, le découragement s'installe, la perte d'appétit, la perte de poids ou au contraire, les gens vont prendre du poids parce qu'ils bougent de moins en moins. Mais il y a un élément à distinguer. Souvent, les gens vont être en réaction moins à la douleur qu'aux conséquences de la douleur dans leur vie.
Oui.
Quand on ne peut plus faire le travail que l'on faisait, quand on n'arrive plus dans le quotidien à vaquer à nos activités, à faire les courses, entretenir la maison, la pelouse, tout ça, quand on n'arrive plus à notre fonctionnement d'avant, très souvent, c'est là où les chutes au niveau émotionnel vont s'observer. C'est là où on va vouloir aussi intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait un débalancement, qu'il y ait un déséquilibre dans la vie de l'individu. Mais comme vous le dites, les impacts dans le quotidien, impacts financiers, impacts sexuels, impacts au niveau du couple, au niveau de la famille, c'est répertorié. Et puis moi, j'entends ça à chaque jour dans mon bureau.
Est-ce que c'est possible de s'adapter à la douleur?
Oui, c'est très, très possible de s'y adapter. Puis vous utilisez le mot parfait pour ça, qui est adaptation. S'adapter veut dire prendre en considération les nouvelles informations qu'on a aujourd'hui dans notre vie. Il y a 5 ans, on n'avait pas la douleur, mais aujourd'hui, on l'a. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'oriente? Dans quelle direction on s'en va? Ça demande de faire des deuils de certaines parties de soi ou de certaines activités que l'on faisait. Et ça demande de se redécouvrir. Ça demande de développer une curiosité pour aller voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être à partir de maintenant, considérant que dans ma vie, ben je souffre d'un problème de douleur qui peut être soulagé, qui est rarement guéri, mais qui peut être soulagé. Et comment je fais pour réapprendre à vivre, me réaligner dans ma vie. Mais l'adaptation est le mot-clé, en fait, de chacune des thérapies ou des traitements qu'on va suggérer.
Et on y arrive comment? Par des petits trucs pour améliorer sa qualité de vie malgré la douleur chronique?
Oui, en effet, beaucoup de trucs d'adaptation. On va travailler de façon importante au niveau des émotions aussi. La médication, pour plusieurs personnes, s'avère essentielle pour leur permettre de fonctionner. Donc, trouver la bonne médication, les bons médicaments aux bonnes doses Ce qu'il faut pas, en fait, on parle au niveau des traitements et pour l'adaptation à la douleur de trois grands axes. Donc, le premier axe, c'est au niveau médical, qui inclut la pharmacologie, donc tous les médicaments, les injections qui peuvent être données, toutes les techniques que l'on connaît aujourd'hui et que l'on utilise pour le traitement de la douleur. Le deuxième axe, c'est au niveau physique. Alors, de s'assurer que malgré la douleur, on se maintient dans l'activité, toujours en mesurant notre zone de confort et en respectant cette zone-là. Donc, bouger très peu, qui est souvent le premier réflexe quand on a mal au dos, par exemple, c'est aussi mauvais que trop bouger. Alors, on a chacun à trouver là où notre corps va tirer profit de l'exercice physique. Et le troisième axe de traitement, c'est au niveau émotionnel, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour éviter qu'il y ait une dégradation au niveau des émotions, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct. Plus une personne est dépressive, plus il sera difficile de la traiter, moins les médicaments seront efficaces et plus cette personne-là perdra le contrôle d'elle-même. Donc, on va vouloir agir rapidement sur les émotions en donnant aussi des trucs, des stratégies pour gérer et pour que la personne puisse les appliquer là, à tous les jours dans sa vie.
Puisque souvent, la prise de médication est à peu près inévitable, en tout cas, du moins dans certains cas, on a aussi parfois affaire à des gens qui sont réfractaires parce qu'ils ont peur de développer soit une dépendance ou parce qu'ils craignent ces effets-là, ils auraient envie de voix plus naturelle. Est-ce qu'il y a moyen de ne pas devenir dépendant à la médication?
Oui, tout à fait. Il y a certains médicaments, les opiacés entre autres, où il peut y avoir une dépendance physique qui s'installe, c'est-à-dire que si on retire le médicament, il y aura des symptômes de sevrage. Quand c'est fait, c'est toujours fait sous supervision médicale. Et pour la plupart des gens, c'est possible de le faire. Il y a un autre phénomène que l'on voit aussi, c'est la tolérance, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une dose plus grande pour obtenir le même soulagement qu'avant. Alors, ce sont deux phénomènes qui sont normaux, que l'on voit régulièrement, qui s'expliquent bien et qui peuvent être contournés. Mais il y a toute une autre panoplie de médicaments qui ne vont pas amener la personne à être dépendante, je dirais, au niveau physique. Mm-hmm. Et bien sûr, on peut se tourner vers les approches non pharmacologiques, alors où la psychologie va intervenir, par exemple. Et ce que je vous mentionnais tout à l'heure, de réinitialiser les choses dans sa vie pour mieux s'organiser, c'est facile à dire, c'est un défi à faire, mais c'est tout à fait possible de le faire. Donc, et quand on combine ces traitements-là, c'est là qu'on obtient en fait les meilleurs résultats. Et il y a plusieurs personnes qui vivent avec une douleur chronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui arrivent malgré tout à fonctionner et à retrouver une qualité de vie qui leur est satisfaisante en faisant des choses qu'elles ne faisaient peut-être pas avant,
mais en s'adaptant. Voilà.
Exactement.
Marie-Josée Rivard, je rappelle que vous êtes l'auteur de La douleur, de la souffrance au mieux-être, également psychologue, présidente de la Société québécoise de la douleur. On peut consulter votre site web au www.marie-josée-rivard.com. Merci beaucoup de votre participation.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Et je rappelle que vous pouvez nous suivre au canalm.org et nous suivre sur Twitter également, Facebook, à la page C'est bon pour la santé. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Laliberté. On se retrouve demain. Bye-bye.